franceinter.fr.
CO2 mon amour, avec Delta D'Or, solution pour les économies d'énergie dans l'habitat résidentiel et les bâtiments.
Elle a l'air en pleine forme là, gay, entreprenant, dynamique.
Ah oui, on a une qualité qui est reconnue par l'ADAS, hein, et puis par les habitants, et voire même par les Écossais, oui, qui trouvent que dans leur whisky, l'eau de Puy-Saint-André tout à fait. J'ai eu des amis écossais qui sont venus, qui trouvaient l'eau d'une qualité gustative très bonne.
C'est du brutal.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite. CO2 mon amour avec aujourd'hui Élise Christophe et Michel Bézikian à la technique. Et assisté de Stéphane Combes, c'est Fabrice Lègle qui cette semaine réalise cette émission. Alors avant de parler d'un million de révolutions tranquilles, sujet tout à fait positif, ça vous a peut-être échappé, mais c'était la semaine de la réduction des déchets avec aujourd'hui un focus sur les allumettes suédoises volume 2. Je vous explique, à force de trier comme des bêtes, la Suède doit importer des déchets. Les Suédois trient et recyclent tellement bien que les capacités des incinérateurs se montrent très supérieures aux quantités de déchets produits par le pays. L'incinérateur, évidemment, il faut le nourrir. Hein. Un adolescent en pleine croissance, à côté, c'est de la rigolade. Pour faire fonctionner ses usines, Stockholm a décidé d'importer des ordures depuis l'Europe, dans un premier temps. Et la Norvège, par exemple, envoie une bonne part de ses détritus en Suède. Comme ça, vous vous imaginez, jetant vos sacs poubelles par-dessus la clôture du voisin? Les Norvégiens le font et les Suédois les en remercient. D'ailleurs, si vous partez en vacances vers le nord de l'Europe, n'y allez pas les mains vides. Dans vos valises, amenez vos sacs poubelles, vous serez reçus à bras ouverts. Alors vous pouvez peut-être même en tirer un petit quelque chose. En effet, là-bas, les immondices commencent à prendre de la valeur. Donc, il faut en produire des tas. La logique du toujours plus dans toute sa beauté humaniste. Le détritus institué en valeur économique, rien de nouveau en fait. Les résidus de l'humanité sont cotés en bourse, une espèce de caca rente. Bientôt, donc, les flux de saloperies diverses et variées pourraient d'ailleurs s'inverser et quitter les dépotoirs empoisonnés d'Afrique de l'Ouest pour regagner la mère patrie. En tout cas, quoi qu'il en soit, faut trier encore plus. Parce qu'il y a vraiment plus de place sous le tapis, on ne peut plus en mettre. Et c'est pourtant passionnant de réduire ses déchets. On achète en vrac, on met tous ses grains dans des jolies boîtes, on vire le superflu de nos achats, les cartons géants, les barbies sous blister, on y regarde à deux fois. Et puis on réduit, on prête, on donne, on échange, on recycle, on répare, on loue, on choisit les circuits courts et les entreprises ou associations qui rament, elles, dans le bon sens. Nos poubelles valent de l'or, on le sait. De là à penser que les chiffonniers du Caire et les enfants de Mère Teresa vont bientôt pouvoir rouler en Rolls électrique, racheter tous les vieux palais des Maharajas et changer leurs crochets de fil de fer contre des sceptres de pharaon. Bon, d'accord, il y a un peu de marge. Mais la riche et grasse Europe veut du déchet. Elle va pas être déçue. Les containers et les ventres des cargos poubelles sont piaffants dans les stalles, prêts à bondir. Chineurs, chiffonniers, misérables et laborieux récupérateurs de tout pays, votre règne arrive peut-être. Il est temps dans le siècle des siècles. Amen. Oui, mettez sac. Voilà, qu'est-ce qu'on va récupérer? On va récupérer, nous, l'énergie des citoyens du monde entier avec Bénédicte Magnier qui vient d'écrire un ouvrage formidable qui s'appelle « Un million de révolutions tranquilles » aux éditions des Liens qui libèrent. Bénédicte Magnier est journaliste à l'AFP et tranquillement voyageait elle aussi un peu partout dans le monde pour nous dire un peu ce que dit Paul Éluard, un autre monde existe, il est dans celui-ci. Alors c'est l'histoire en fait de citoyens ordinaires qui vivent un peu partout, hein, dans les petits villages d'Asie, d'Amérique latine, d'Afrique, mais aussi à Détroit, à New York, Tokyo et en France. Et ce sont donc des milieux sociaux très variés. Ce sont des gens qui ne se connaissent pas forcément entre eux. Et chacun, dans son domaine, invente des solutions que ni les gouvernants, ni le secteur privé n'a pu mettre en place. Donc ils répondent en fait à la plupart des maux de la planète. Ils essayent de réinventer une agriculture, l'accès à l'eau, à l'énergie, l'usage de l'argent qui est différent, bref, une démocratie locale. Et on peut dire, Bénédicte Magnier, en fait, ce que vous avez voulu faire, c'est un livre des transformations de terrain.
Voilà, la plupart de ces initiatives, je les connaissais depuis plusieurs années pour en avoir couvert certaines professionnellement. Et puis au fil de mes voyages ces dernières années, y compris de mes voyages personnels d'ailleurs, j'avais l'impression qu'elles se multipliaient partout sur la planète. Donc j'ai voulu vérifier cette intuition. Alors, j'ai pris un peu un pays échantillon par continent. Donc, je suis allée en Inde, je suis allée en Argentine, je suis allée aux États-Unis, bien sûr, au Canada. J'ai exploré un peu ce qui se passait dans notre vieille Europe et j'ai voulu comprendre comment ces initiatives se développaient et pourquoi. Et là, j'ai été surprise quand même par ce dynamisme, cette vitalité de la société civile qui invente localement des solutions que, effectivement, personne d'autre n'apporte parce qu'elle est confrontée à des problèmes aussi. Hein. Au départ, il y a un besoin. Évidemment. Alors, elle trouve.
Oui, ça peut être la crise aussi, hein, donc, qui est là, qui va accentuer donc, une demande différente de société.
Absolument. Il y a une crise. D'abord, il y a une montée de nouvelles aspirations, j'ai l'impression. Il y a une critique qui se répand au sein des classes moyennes, et pas seulement d'ailleurs, envers un système économique qui n'a pas rempli ses promesses, finalement, oui. Hein, en termes d'emploi, bon, qui se montre destructeur envers les industries locales, destructeur envers l'environnement aussi. À ce titre, j'ai l'impression que la mondialisation a été vécue un peu comme une suite de régressions, d'ailleurs. Et puis, une aspiration à vivre dans une société moins dure, une société plus juste socialement, une société plus respectueuse de l'environnement aussi, une société plus conviviale, plus humaine, en d'autres termes. C'est pour ça qu'on met en place des systèmes qui vous permettent d'habiter autrement, de commercer autrement, d'échanger autrement. Bon, ça, je l'ai constaté partout dans le monde.
Alors, on va faire ce petit tour du monde avec vous. Patrick Vivray, qui est philosophe et qui s'intéresse depuis très longtemps à ces changements, bah, nous rejoindra dans quelques instants. Je ne vais pas vous présenter Jean-Marie Pelt, parce que là, on va quitter avec lui, avec Jean-Marie, notre bonne vieille terre. Je vois que Jean-Marie a enfilé son scaphandre. Bonjour Jean-Marie Pelt.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
On va aller sur Mars. D'abord parce que vous vous intéressez depuis très longtemps au ciel.
Hein. Oui, très. Voilà. J'aime beaucoup l'astrophysique, l'astronomie. Ça a toujours été un hobby pour moi, mais je n'étais pas bon en maths, donc je ne pouvais pas faire de ça ma profession.
Donc vous aimez herboriser et vous aimez cueillir les étoiles.
Absolument. Bon. Et j'ai souvent le nez dans les étoiles.
Et là, on va s'intéresser à une planète.
Oui.
Donc qui s'appelle Mars.
Oui, dont on parle beaucoup.
Ah oui, on le sait. Donc le petit engin est arrivé, Curiosity, sur Mars.
Voilà, il est arrivé sur Mars le 6 août. Il pèse 900 kilos. C'est un gros robot. Pour arriver sur Mars, il a parcouru 250 millions de kilomètres, de sorte que, vu cette distance, la lumière et les signaux qu'il émet pour nous mettent 15 minutes pour nous atteindre. Donc, c'est pas comme la Lune où ça dure une seconde. Hein, Mars est loin. Et alors, il emmène un petit engin qui s'appelle le laser ChemCam, qui a été fabriqué par les Français. Ça, c'est très important. Et ce laser va pulvériser la surface de cailloux. Va les pulvériser à des températures très élevées, 10 000 degrés, et donc le caillou va devenir gazeux, et on va voir ce qu'il y a dedans. Et si on trouve dedans de l'azote, du soufre et du phosphore, alors il y a de fortes chances qu'il y a eu des traces de vie. Oui. Parce que c'est pour ça qu'on va sur Mars, parce qu'on sait que les autres planètes, il n'y a pas de vie sur les autres planètes. Et alors, on va savoir s'il y a eu de la vie sur Mars, parce qu'on voit des traces d'eau. Quand on voit les photos de Mars, on voit que de l'eau a coulé sur Mars, il y a très longtemps, il y a 3-4 milliards d'années, à l'époque où Mars s'est formé, à peu près à la même époque que la Terre. Donc, il y a peut-être eu de la vie à ce moment-là, une petite vie de rien du tout, une vie bactérienne. Et c'est ça qui nous intrigue. C'est la fameuse question, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs que sur la Terre ? Alors la réponse, tout le monde dit oui, probablement oui, mais oui ou non, on ne sait pas. On ne sait pas, peut-être qu'on n'en trouvera pas, peut-être qu'on va en trouver. Donc c'est pour ça qu'on est tellement passionné par ce qui se passe sur Mars. Et en gros, là, toutes les dernières grandes missions sont toutes portées vers Mars, effectivement, depuis maintenant une bonne dizaine d'années, une bonne quinzaine d'années.
Quelles sont les réflexions, je dirais, de l'écologiste que vous êtes par rapport donc, à ces recherches.
Mais elles sont passionnantes parce qu'on trouve des molécules sur des astéroïdes, sur des météorites, qui sont des molécules prévivantes, qui sont par exemple des molécules contenant de l'azote, du carbone, de l'oxygène, qui sont des sucres. On a trouvé tout récemment du glycoaldéhyde, qui est un sucre, autour d'une étoile, dans le gaz qui est autour d'une étoile, qui est situé à 400 années-lumière de nous. Donc, il y a des précurseurs de la vie.
Et ça, d'ailleurs, c'était grâce au télescope géant du désert d'Atacama.
Oui.
Il faut le dire aussi, oui. on avait déjà trouvé cela sur le plateau de Bure, aussi, avec d'autres télescopes chez nous.
Oui, et les observations vont effectivement toutes dans le même sens. La vie est en gestation. Oui. Voilà, c'est ça qu'on peut dire. Mais est-ce que ça va jusqu'à des êtres vivants? C'est justement ça qu'on voudrait savoir. Et c'est justement ça qu'on ne sait pas. Alors, pour le savoir, il faudrait peut-être y aller. Alors, question, est-ce qu'on va aller sur Mars? Bon, ben, pas demain. Non. Pas demain. Qu'est-ce que je pense de ça, moi? Moi, je pense que la priorité doit être donnée aux sondes, aux sondes automatiques qui ne sont pas des vols habités. Parce que c'est quand même très risqué, les vols habités. Et parce que les sondes nous amènent des renseignements prodigieux. Alors, plus personne ne se souvient qu'en 1977, on a expédié dans l'espace deux sondes qui s'appellent les Voyageurs 1 et 2. Le 2 a survolé toutes les planètes gazeuses, donc a survolé Jupiter, Saturne, et pour la première fois Uranus, et pour la première fois aussi Neptune.
Je pense que nos amis s'en souviennent un petit peu quand même.
Ils s'en souviennent. Oui. Et puis ensuite, ces sondes sont parties vers les confins du système solaire. Oui. Eh bien, est-ce que vous savez qu'elles sont actuellement à près de 20 milliards de kilomètres de la Terre, c'est-à-dire 4 fois plus loin que l'orbite de Pluton? L'orbite de Pluton, c'est 5 milliards de kilomètres, et c'était la planète la plus éloignée. Et alors, ce qui est merveilleux, admirablement merveilleux, c'est que ces engins nous envoient des signaux, voilà, encore maintenant. Des confins du système solaire. Donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est donc ce qui s'est passé cet été, Curiosity sur Mars, et puis le boson de Higgs. Oui. On croit avoir vraiment découvert cette fameuse particule qui confirme ce qu'on appelle le modèle standard.
Enfin, ça se discute, c'est-à-dire, encore, hein, là, vous avez remarqué quand même.
Ça se discute, oui. Mais ce modèle standard, c'est comment est constituée la matière. Voilà. On brûle pour savoir comment ça s'est constitué. Alors, ce qu'on pourrait dire en conclusion, c'est qu'il reste, on va être généreux, il reste deux domaines dans la science où la science n'est pas achetée par la finance pour devenir de la technoscience et pour produire les innombrables engins qu'on nous vend. Ces deux domaines, c'est l'astrophysique et c'est la physique des particules. Et moi, je trouve que c'est quand même extrêmement important qu'il reste encore de ce qu'on appelait autrefois de la recherche fondamentale. Cette recherche n'est subventionnée que par les États. Et elle n'a pas d'autre but que la connaissance. Donc nous sommes ici dans la définition exacte de la science. Voilà. Donnons un bon coup de chapeau aux astrophysiciens et aux physiciens des particules. Ces sciences-là font honneur à l'humanité.
Oui. Merci Jean-Marie.
Au revoir Denis. Au revoir à tous.
Et musique à présent. Trio, l'a dit la fée. On va retrouver donc nos évolutions et révolutions tranquilles avec Bénédicte Magnier.
Cette chanson, elle est pour toi, ô grande sœur, petite reine, grande patronne malgré toi, ô petite main souveraine. La fée qui dit oui à la vie, elle promène dans la Rochelle le fantôme de sa maladie, qu'on sèmera dans les ruelles. Alors en souvenir de toi, là sur le port de la Rochelle, des milliers à tendre les bras, à faire trembler la citadelle. Des milliers à refaire le monde, souffle le vent sur la nacelle. Du lierre est monté sur ta tombe, et toi tu joues les immortels. La vie, la vie. De Lille à Paris, la Rochelle, pour la nounou, pour la mama, la petite fée, la coccinelle. Car nous c'est les copains d'abord, les indiens dans la fourmilière, les douces sorchies sur le bord, grain de folie, grain de poussière. C'est mon hommage de ton vivant, là sur le bord de la Rochelle. Ça doit faire drôle, c'est déroutant, et tu souris sous ton ombrelle. On chantera à mille voix, et la vie nous sera facile. Non, la faucheuse t'aura pas, nous on t'embarque sur notre île. La vie, la vie.
cette chanson, elle est pour toi, pour ceux qui regardent le ciel, bravant la douleur et le froid, le compte à rebours éternel, à ceux qui s'accrochent à la vie et qui la trouvent tellement belle, quand elle vous sourit, vous défie, quand elle vous fait battre de l'aile.
Chic, choc, très tendance et pas cher, durable au moins une fois par semaine, c'est CO2 Mon Amour avec Denis Chessot.
Et avec Bénédicte Magnier qui a écrit 1 million de révolutions tranquilles aux éditions Des liens qui libèrent, donc le livre des transformations de terrain. On va maintenant en détailler évidemment quelques-unes avec vous et on va s'intéresser à l'eau qui est quand même le défi majeur, on le sait aujourd'hui dans le monde. Comme le dit très souvent, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais Michel Serres, donc philosophe, nous dit la fin du pétrole, c'est pas la fin du monde, mais l'eau en revanche c'est quand même le problème qu'il faut résoudre. Et on va partir en Inde, on va aller dans le Rajasthan. On est dans le nord-ouest du pays. Et les trois quarts de cette région sont classés vraiment en déficit hydrique extrêmement sévère. On voit des surfaces agricoles qui reculent, des femmes qui passent 5 à 6 heures par jour sur les corvées d'eau et j'imagine aussi des corvées de bois. Et alors, près du Jaipur, il y a un paysage qui est extrêmement surprenant parce que vous dites, Bénédicte Magnier, que ça ressemble à une petite Normandie. Alors, racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé. Et là, on va bien comprendre comment les citoyens ont pris leur destin en main.
Alors, pour comprendre cette très belle histoire, je fais un petit retour en arrière rapide au milieu des années 80. On est dans un petit district totalement en voie de désertification, comme le reste du Rajasthan. Les nappes phréatiques sont épuisées, les puits sont vides, les femmes marchent plusieurs heures par jour pour chercher de l'eau et les champs sont tellement secs que les récoltes sont un désastre complet. Les champs ne donnent rien et la population souffre de malnutrition. Arrive un jeune travailleur social qui s'appelle Rajendra Singh et qui se dit « il faut remédier à ça ». Et il commence à mobiliser la population, à leur dire « écoutez, on va tous se retrousser les manches et on va retrouver un savoir ancestral qui consiste à recueillir l'eau de pluie, tout simplement ». Donc ils se sont regroupés, ils ont travaillé ensemble, plusieurs années quand même, ça a pris plusieurs années. Et ils ont creusé un réseau de 10 000 structures de captage des pluies, donc des canaux, des bassins de rétention. Tout ça a permis de canaliser l'eau des pluies et de la permettre de s'infiltrer dans le sol. Les nappes phréatiques ont été rechargées en quelques mois. Et aujourd'hui, effectivement, quand on arrive dans cet endroit, on se croirait vraiment en Normandie, c'est-à-dire c'est un véritable oasis agricole. Le paysage est vert, les collines sont reboisées, il y a des points d'eau partout, il y a des lacs, il y a des rivières qui ne coulaient plus depuis 40 ans. Ces rivières se sont remises à couler. Et le retour de l'eau a complètement transformé l'économie locale, c'est-à-dire que les paysans sont redevenus prospères. Ils ont 3 récoltes par an. Ils cultivent en biologique pour économiser l'eau, puisqu'on sait que ça demande moins d'eau. Et ils sont aujourd'hui les paysans les plus riches de la région. Ils ont inversé l'exode rural, les villages se repeuplent. C'est un formidable exemple de renaissance d'une région qui était en train de mourir. Et à l'échelle de l'Inde, c'est quand même pas rien, parce que ça concerne quand même 700 000 personnes, ce district. Et puis surtout, ça a inversé un phénomène qu'on considère généralement comme irréversible, hein, c'est-à-dire la désertification. Et c'est tellement simple de recueillir l'eau, c'est-à-dire de recréer le cycle naturel de l'eau, que c'est transférable ailleurs, très facilement transférable ailleurs. Et d'ailleurs, ça a été imité dans d'autres régions de l'Inde.
Alors, ce qui est tout à fait intéressant aussi, c'est que derrière tout ça, il n'y a pas eu un État, il n'y a pas eu d'ingénieur, on va dire, hydraulique. Donc, on a récupéré les savoirs ancestraux avec la modernité de cette époque-là aussi. Mais l'ingénierie hydraulique traditionnelle avait été rejetée au nom de la modernité. Donc, c'était ça. Mais comment on réussit dans un pays, on va dire, de caste, qui est quand même extrêmement hiérarchisé, à faire fonctionner tout ce petit monde?
Alors ça, c'est l'autre réussite du projet de Rajendra Singh, c'est-à-dire qu'il a créé des assemblées villageoises qui se réunissent, où tout le monde se réunit, toutes les familles se réunissent à égalité, les hommes et les femmes à égalité, les basses castes et les hautes castes à égalité, et tout le monde se partage à égalité, y compris les intouchables, qui autrefois n'avaient pas le droit à une eau pure quand même. On se partage l'eau à égalité. Tout le monde met la main à la pâte aussi pour entretenir les structures et l'écosystème des rivières. Il y a une véritable autogestion villageoise, une autogouvernance villageoise qui s'est mise en place. Ils se sont permis d'ailleurs, ces villageois, de renvoyer les bureaucrates de l'administration qui étaient venus quand ils ont vu que les rivières se remettaient à couler. Ils ont voulu prélever des taxes de pêche.
C'est extraordinaire.
Ils les ont renvoyés dans leur bureau en leur disant « Écoutez, vous n'avez rien fait pour nous, donc nous, maintenant, la pêche est libre. » Libre de droit, voilà. Tout ça est un formidable mouvement citoyen qui se passe de manière très lisse, formidable, qui transcende toutes les différences sociales sans heurts, et c'est une formidable réussite démocratique.
Et juste aussi rappeler que le réchauffement climatique mondial, qui est en train de bien galoper d'ailleurs en ce moment, ne sera résolu aussi que par des solutions locales et décentralisées. C'est pas forcément avec un coup de baguette magique universelle que les choses vont se résoudre. Patrick Vivray est avec nous en ligne, professeur de philosophie, un homme qui a reconsidéré la richesse depuis de nombreuses années, qui a écrit aussi au Lien qui libère un formidable livre, Cause commune du bon usage de la fin d'un monde. Bonjour Patrick Vivray.
Bonjour.
Alors on est ravis de vous avoir au téléphone quelques instants parce qu'en fait ces exemples-là, qu'est-ce qu'ils vous inspirent? On va en développer d'autres après sur l'agriculture, sur la santé, mais il y a un homme qui vous est extrêmement cher, c'est Édouard Glissant, donc ce poète martiniquais qui est mort d'ailleurs je crois il y a à peu près un an et qui nous disait qu'il fallait passer de la mondialisation, en fait il ne traite que de la globalisation financière, à la mondialité. Et donc ces exemples-là, pour vous, comment résonnent-ils?
Oui, c'est exactement ce que dit Édouard Glissant. Ce qu'on appelle mondialisation, c'est en réalité une fausse mondialisation, c'est une globalisation financière, alors que tous les exemples qu'évoque Bénédicte dans son livre, on peut dire que c'est de la véritable mondialité, parce que ce sont des exemples locaux, mais un local, quand un local est de 700 000 personnes, comme dans le cas du Rajasthan, on comprend bien qu'on est déjà dans des transformations de plus grande importance. Et ce sont des transformations qui sont reproductibles et que ces mouvements de citoyens peuvent reprendre et reproduire dans le monde entier. Bénédicte Magnier, dans son livre, elle cite cette belle phrase de Rajendra Singh, justement, qui dit « On a juste aidé les gens à réaliser ce dont ils avaient besoin, à comprendre qu'ils avaient le pouvoir de faire tout cela par eux-mêmes. » Et donc, il y a un lien entre la réappropriation citoyenne et puis la réappropriation des biens de base, que ce soit l'eau, que ce soit la nourriture, que ce soit les soins, que ce soit le logement. Et ça, c'est une formidable source d'espérance.
C'est-à-dire que ça casse complètement le modèle que vous dénoncez et que vous avez baptisé décédé. Décédé, qu'est-ce que c'est ?
Décédé, c'est tout ce qu'on vient de vivre au cours des 35 dernières années. C'est le D pour dérégulation à outrance, C pour compétition à outrance et D pour délocalisation à outrance. Et là, vous évoquez par exemple la question du dérèglement climatique. Ben, on comprend bien qu'on ne peut traiter un problème tel que le dérèglement climatique qu'en ayant au contraire plutôt des éléments de régulation que des dérégulations, des éléments de coopération plutôt que de compétition et des éléments de relocalisation que de délocalisation.
Alors ce que je vous propose, Patrick Vivray, on va essayer d'améliorer un petit peu la ligne parce que vous n'étiez pas sur Mars avec Jean-Marie Pelt, mais on va se retrouver dans quelques instants et on va parler d'agriculture, ce sera juste après, ben oui, la journée lui est dédiée, Barbara.
Il pleut. Il pleut sur les jardins à l'envi, sur les roses de la nuit. Il pleut des larmes de pluie. Il pleut et j'entends le clapotis du bassin qui se remplit. Oh mon Dieu, que c'est joli la pluie. Quand Pierre rentrera, tiens, il faut que je lui dise que le toit de la remise a fui. Il faut qu'il rentre du bois car il commence à faire froid ici. compagnon dormi, le silence et puis un cri,
c'est rien,
un oiseau de nuit qui fuit. Que c'est beau cette pénombre, le ciel, le feu et l'ombre qui se glisse jusqu'à moi sans bruit.
Du côté de la rue de la Grange aux Loups, mais pas loin, on sent bien une espèce d'inspiration la commune. C'était donc Pierre de Barbara. Nous sommes toujours avec vous, Bénédicte Magnier, un million de révolutions tranquilles aux éditions des Liens qui libèrent. On va parler maintenant de l'agriculture. Bon, on picore dans votre ouvrage parce que vous l'avez dit, vous êtes allé sur différents continents. On va partir avec vous du côté de Détroit, dans le Michigan. C'était donc la Détroit, c'était la Motor City, et donc il y a eu cette crise qui a balayé la ville de la voiture. Elles sont fabriquées maintenant au Mexique, au Brésil, au Vietnam, pour Chrysler et General Motors en particulier. Et on est passé de 2 millions à 710 000 personnes. Chômage, donc à Détroit, aux États-Unis, 45%. Une personne sur trois vit sous le seuil de la pauvreté. Et qu'est-ce qui a changé? Là aussi, les citoyens ont pris leur destin en main. Et on va toucher donc à l'essentiel, se nourrir.
Ils ont repris leur destin en main parce qu'ils étaient bien obligés. Ils ont tous été licenciés. Ceux qui sont restés n'avaient plus d'emploi. Il n'y a pas non plus d'allocation sociale. Donc, il fallait bien trouver un moyen de subsistance. C'est d'ailleurs pas seulement vrai de Détroit. C'est vrai de toutes les grandes villes de la Rust Belt, hein, cette ceinture de rouille de la désindustrialisation américaine. Des villes comme Cleveland, comme Rochester et d'autres qui sont totalement sinistrées. On les traverse, on se trouve face à des bureaux, des immeubles entiers de bureaux qui ont fermé, des usines vides, des squelettes d'usines partout, des maisons vides qui s'effondrent. Bon, c'est un désastre industriel et social. Mais les habitants ont décidé de se réapproprier cette ville, je parle de Détroit là, et cette ville est en train de se réinventer grâce à l'agriculture urbaine. C'est-à-dire qu'ils ont investi d'abord les petites parcelles qu'ils avaient autour de leur maison, puis les espaces verts publics. Ils ont installé de vastes potagers, des serres, et d'abord ils cultivent pour se nourrir. Mmh. Et ensuite, il y a une petite économie qui est en train de se mettre en place avec des marchés fermiers, avec des restaurants qui utilisent les produits locaux, avec des artisans qui reviennent s'installer. Tout ça avec des petites PME aussi de transformation agroalimentaire, avec des traiteurs bio, des choses comme ça. Bon, cette ville est en train de devenir le prototype de la ville post-industrielle qui se réinvente grâce à l'agriculture urbaine. Cela dit, c'est un phénomène qui est vrai même dans les villes prospères maintenant aux États-Unis, parce que les Américains redécouvrent l'agriculture dans les villes, non seulement pour des raisons de nécessité, pour se nourrir, mais aussi parce que c'est un moyen de se réapproprier la ville, d'introduire d'autres modes de vie. Donc là, l'agriculture urbaine déborde maintenant des balcons pour aller s'installer partout dans les espaces publics. À New York, par exemple, il y a 800 jardins partagés. Il y a des fermes, dans le Bronx, il y a des fermes à Brooklyn, il y a des fermes sur les toits, il y a des potagers. Tous les collectifs maintenant de locataires ou de propriétaires installent des potagers sur les toits. Là aussi, il y a un retour des marchés fermiers qui vendent les produits cultivés dans la ville. Mmh. Il s'agit là de manger sain à nouveau, de manger local, de connaître la provenance de ce qu'on mange et puis de changer le paysage urbain. Et ce qu'on voit partout en Europe aussi, parce que cette agriculture urbaine, elle explose partout. En France, en Espagne, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, partout. L'idée, c'est quand même de se retrouver dans des espaces qui sont différents, qui sont autre chose que les embouteillages, par exemple. On cultive avec ses voisins, on partage les légumes, on organise des soirées dans ses jardins, on organise des fêtes, on crée des ateliers pédagogiques pour l'école du quartier. Voilà, on recrée du lien social. Et ça, c'est un mouvement formidable.
Alors, on va le voir aussi avec un homme qui s'appelle François Rouillet, qui est à l'origine en France d'un mouvement qui s'appelle Incroyable Comestible, donc porte-parole de ce mouvement. Vous êtes d'ailleurs vous-même conseiller de développement territorial et vous suivez donc les processus participatifs des territoires. Donc, vous faites de la veille et vous êtes intéressé donc à cette sécurité alimentaire. Et on va partir avec vous dans le nord de l'Angleterre, on va être près de Manchester, à Todmorden, qui est une ville d'ailleurs au climat tout à fait difficile, qui a été aussi sinistré, avec des inondations, 15 000 habitants, et qui actuellement est en train de relocaliser sa consommation locale. Donc racontez-nous comment ça s'est passé, François Rouillet.
Oui, alors Todmorden, c'est une, comment on dit, une ancienne cité industrielle en déclin. Il y avait 25 000 habitants en 1900, il n'y en a plus que 14 000, 15 000 aujourd'hui. Et avec la crise des subprimes en 2008, ça a été le coup de grâce. Et une mère de famille, Marie Clear, a eu l'idée de transformer son jardin floral en jardin potager. Puis elle l'a fait devant sa maison et elle a ouvert ses fruits et légumes en libre accès à tout le monde avec une petite pancarte « Food to share », nourriture à partager. Elle a fait quelques pas, elle est allée un peu plus loin et elle a planté un pied de rhubarbe à l'arrêt de bus du centre-ville et elle a remis sa pancarte « Food to share ». Et son amie Pam Warhurst a découvert ça, mais elle a dit « mais c'est une idée géniale, faut qu'on l'étende à toute la commune ». Et ils ont appelé les habitants à participer par une annonce dans la presse. 60 personnes ont répondu présent et les deux femmes leur ont demandé « est-ce que vous voulez faire l'expérience de l'autosuffisance alimentaire de notre commune ? On plante, on arrose, on partage ». Et le groupe a sauté de joie en disant « oui, allez, on y va ». Et c'est comme ça que c'est parti.
Alors, des bacs, après, on est passé à des terrains plus importants ?
Oui, alors il y a un certain nombre de bacs dans la ville, mais surtout, il y a une coopération étroite avec l'ensemble des parties prenantes, le commissariat de police, l'hôtel des pompiers, les écoles, les cours de récréation sont transformés en jardins potagers par les enfants et ils produisent les fruits et légumes qu'ils mangent à la cantine. La police ont un grand bac et ils cultivent les fruits et légumes en nourriture à partager. C'est la meilleure prévention qu'ils ont dans la commune et ça fonctionne comme ça. C'est un mouvement citoyen qui vient d'en bas.
Et c'est vraiment ça l'innovation, c'est-à-dire que ça réside dans le processus participatif citoyen.
Oui, c'est ce qui fait que c'est totalement innovant. C'est une initiative citoyenne, un mouvement citoyen qui est complètement apolitique et non marchand, gratuit et accessible à tout le monde.
Alors comment on se réapproprie l'espace public ? Parce que j'imagine bien que tous les maires ne sont pas forcément d'accord avec ce genre de système.
Alors, on a effectivement des approches différentes d'une commune à l'autre. On a 6 mois d'expérience en France, alors qu'il y en a déjà 4 ans en Angleterre. Il y a 35 communes en Angleterre qui sont impliquées. En France, on a 70 projets qui ont démarré ces 6 derniers mois. Dans certaines communes, c'est tellement révolutionnaire comme procédé que les élus sont en interrogation. Mais dans d'autres, on voit une coopération immédiate entre le maire de la commune, le conseil municipal, qui prend position auprès des habitants pour dire « on est à vos côtés et on va transformer l'espace public en jardin potager ».
Alors, ce n'est pas forcément un processus, on va dire, de crise à la base, parce que je vois une commune comme Versailles quand même, et qui s'y met.
Il y a, puisqu'on parle du cas de Versailles, Versailles est quand même dans une situation où le lien social avec les tensions économiques aujourd'hui pose un problème et le Rotary Club a décidé de s'engager avec son équipe des jeunes, qui s'appelle le Rotaract, à faire les incroyables comestibles à Versailles pour retisser le lien social intergénérationnel. Et le maire a dit oui. Et le maire met à disposition 50 bacs, la terre et les semences du potager du roi de Louis XIV.
Alors certaines personnes vont vous dire oui, mais attention, les gens vont vous voler les légumes ou bien les fruits qui sont en train de pousser.
Oui, et c'est tout à fait la remarque qu'on a souvent quand on va dans des grandes villes comme Paris ou autres. Les gens disent « ah mais c'est génial, mais chez moi, ça ne marchera pas, ça va être volé ». Et alors, on a raconté ça aux Anglais et ils ont éclaté de rire en disant « mais ça ne peut pas être volé, c'est gratuit. Et en plus, s'il y en a partout et que vous participez à le co-créer, ça, le vol n'a plus de sens. Et c'est là qu'on aborde un nouveau paradigme. Le vol n'a plus de sens. Et à Todd Morden, la police confirme que depuis que le processus est lancé, il y a une baisse très nette de l'incivilité et la délinquance.
François Rouillet, une fois de plus, c'est une initiative qui vient du bas, autrement dit, des habitants. Le rôle du politique, lorsqu'il adhère à cela, en fait, après, c'est d'être un ensemblier, un fédérateur d'énergie.
Oui, alors on demandait qu'est-ce qui est révolutionnaire. Ce qui est totalement innovant, inédit et révolutionnaire, c'est le processus participatif citoyen à grande échelle sur le territoire. Et donc là, on observe dans de nombreuses communes une organisation de la politique locale totalement nouvelle, c'est-à-dire que les politiques qui veulent coopérer dans ce processus mettent l'organisation à disposition. Je vais vous donner un exemple d'actualité. En Bretagne, la ville de Plomelin, le conseil municipal des enfants qui vient d'être élu, a voté à l'unanimité, objectif numéro 1, la solidarité dans la ville, plan d'action numéro 1, les incroyables comestibles dans la ville. Et donc ce sont des enfants de 9 à 11 ans qui vont donner les directives à la commune et les services techniques de la ville vont être au service du projet des enfants pour transformer l'espace public en jardin potager citoyen.
Si on va à Saint-Nazaire, qu'est-ce que l'on peut regarder ?
Alors à Saint-Nazaire, c'est intéressant parce que il y a des groupes, toute la Bretagne, Pays de la Loire est très très active dans le mouvement, ça pousse comme des champignons et à Saint-Nazaire, il y a une coopération bienveillante entre le service des espaces verts de la ville, les incroyables comestibles et l'association des jardiniers de France. Ils ont mis à disposition un espace du jardin des plantes, ce qu'on n'a jamais vu. On a mis un espace du parti du jardin des plantes pour faire un jardin pédagogique des incroyables comestibles avec la permaculture, avec toutes les techniques nouvelles utilisées pour que les habitants puissent découvrir ce côté jardinage totalement innovant.
Concrètement, ce sont des pommes de terre, des salades, des carottes, des choux, des navets, enfin que sais-je, qui sont cultivés ?
Tout est possible. Vous savez qu'il y a même des fleurs comestibles. Alors, c'est intéressant ce que vous dites là parce que à Todd Morden, ils ont créé des 24 stations à thème dans la ville, genre les petits fruits rouges, ici les plantes médicinales, là les plantes aromatiques, etc. Et il y a des panneaux pédagogiques, il y a des créations qui sont faites avec des artistes, c'est très joli. Ils ont relié les 24 stations entre elles et ça donne la Green Route. Et encore une fois, c'est un mouvement qui est ouvert à tous, que ce soit les élus locaux, que ce soit les habitants, les producteurs locaux. Je prends l'exemple à Bastia, en ce moment, ils ont fait une fête avec les maraîchers et les maraîchers coopèrent avec les incroyables comestibles parce qu'ils ont compris que le circuit court, produire et consommer localement, c'est vraiment l'avenir pour les territoires, parce que ça marche immédiatement.
François Rouillet, donc, de ce mouvement citoyen qui est parti en 2008 d'Angleterre, incroyable comestible. C'est pas un truc de bobo, hein, c'est pas la peine d'écrire en disant bah, c'est gentil, c'est pas du tout. On sent bien que c'est quand même beaucoup plus profond que cela. Patrick Vivret, ça doit vous réjouir quand vous entendez ces différents exemples.
Ah ben, tout à fait, c'est du côté de la germination créative. Hein. Vous savez, quand Gramsci disait « la crise se produit lorsque le vieux monde tarde à disparaître, le monde nouveau tarde à naître », et ajoutait-il « dans ce clair-obscur, des monstres peuvent apparaître », là, on est tout à fait du côté du monde nouveau qui est en train de naître, et on voit bien qu'il y a à la fois un changement de posture dans le rapport à la richesse. Tous ces acteurs reprennent les moyens de s'auto-organiser de façon solidaire pour recréer et d'échanger de la richesse, mais c'est aussi un changement de posture dans le rapport au pouvoir. Les exemples que François vient de donner avec les incroyables comestibles et les exemples que Bénédicte évoque dans son propre livre, on voit bien que les élus qui comprennent cette importance sont, ce que vous disiez, Denis, des enfants. sangliers des fédérateurs d'énergie. À ce moment-là, c'est le pouvoir au sens de pouvoir créateur, c'est pas le pouvoir de conquête et de domination. Et le changement de posture dans le rapport au pouvoir va de pair avec le changement de posture dans le rapport à la richesse.
Même si on sent que on va dire que le vieux monde du XXe siècle est en train de résister, il va encore prendre son temps, hein, c'est sûr, pour laisser une autre manière de faire, donc plus tard, dont vont hériter d'ailleurs tous nos gamins. Est-ce que pour vous, on est quand même sur une fin de cycle parce que les promesses du salut par l'économie n'ont pas été tenues ?
Oui. C'est une phrase qu'on peut emprunter au sociologue Max Weber, hein, puisqu'il avait caractérisé l'entrée dans la modernité occidentale comme étant le passage de l'économie du salut au salut par l'économie. Et on voit bien que le salut par l'économie est en train d'arriver à une fin de cycle historique, à la fois parce que les promesses du salut par l'économie n'ont pas été tenues, notamment la simultanéité entre progrès technique, progrès économique et puis progrès social et progrès moral. La Shoah a été une tragique démonstration qu'il pouvait y avoir du progrès technique et économique mis au service de la plus terrible des barbaries, mais aussi parce que on peut dire que la question du salut fait retour. On peut le dire sous une forme parfaitement laïque, mais à chaque fois qu'on parle par exemple de sauver la planète, on l'évoquait encore récemment, elle a de toute façon plusieurs milliards d'années avant d'être absorbée par le soleil. En revanche, c'est notre humanité qui est bel et bien à des rendez-vous critiques et où elle pourrait se perdre biologiquement, armes de destruction massive, destruction des écosystèmes, ou spirituellement, on peut avoir aussi une humanité qui renonce à ses propres valeurs essentielles. Et quand on se tourne du côté de la germination créative, on retrouve ce que dans l'économie sociale et solidaire, on avait appelé le trépied du rêve, c'est-à-dire l'alliance entre le R de la résistance, et Dieu sait s'il y a besoin de résistance face à tout ce qui est profondément insupportable et inhumain, le V de la vision transformatrice, et on voit bien dans tous ces exemples qu'il y a des alternatives vers un autre monde possible, mais sans attendre, on a le E de l'expérimentation et de l'expérimentation anticipatrice qui dit il est possible dans l'ici et maintenant d'aller le plus loin possible dans le sens de ce que le Forum social mondial de Belém avait appelé la transition vers des sociétés du bien vivre, du buen vivir.
Oui. Merci à vous Patrick Vivret, on vous retrouve dans quelques instants aussi. On va poursuivre donc ce voyage dans l'autogouvernance citoyenne qui est le fil de ce livre. Ce sera juste après Diana Krall.
We thought that love was over and we were really through. I said I didn't love him, that we'd begin anew. And you can all believe me, we sure intended to, but we just couldn't say goodbye. The chair and then the sofa, they broke right down and cried. The curtains started waving for me to come inside. I tell you confidentially, the tears were hard to hide, and we just couldn't say goodbye. The clock was striking 12 o'clock. It smiled on us below. With folded hands, it seemed to say, we're gonna miss you if you go. So I went back and kissed him, and when I looked around, the room was singing love songs and dancing up and down. And now we're both so happy because at last we found that we just couldn't say goodbye. People in love are funny, mighty hard to explain. One minute they quarrel, then they're back together again. Take my case for instance, we had a little fuss. Now listen, ladies and gentlemen, here's what happened to us. Ba da ba ba da da, ba bo ba da ba da.
Ba The clock was striking 12 o'clock. It smiled on us below. With folded hands, it seemed to say, we're gonna miss you if you go. So I went back and kissed him, and when we looked around, the room was singing love songs and dancing up and down. And now we're both so happy, because at last we found that we just couldn't say goodbye.
Même si je comprends pas toujours tout, l'environnement, moi, ça m'éclate. CO2 Mon Amour, Denis Chessou.
Voilà, ben nous aussi, ça nous éclate avec Un million de révolutions tranquilles avec Bénédicte Magnier, avec le philosophe Patrick Vivret. Puis tenez, je vous emmène tout de suite du côté de Lyon. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a une manifestation intéressante qui rejoint pas loin, en fait, notre sujet et qui s'appelle 80 kilomètres. Alors là, comme on ne sait pas très bien, c'est le défi 80 kilomètres. Yvan Bidalo, vous êtes membre du réseau Info Énergie en Rhône-Alpes. Qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, le défi 80 km, c'est simple, c'est un concours de cuisine locale. C'est 10 équipes qui vont cuisiner, qui rassemblent à la fois un professionnel et de la restauration et des particuliers, doivent concocter un plat et un dessert avec des ingrédients, donc les fruits, les légumes, etc., qui proviennent dans un rayon kilométrique de moins de 80 km autour de Lyon. C'est un concours, c'est un défi. Les équipes, durant la semaine, préparent en fait le menu avec le restaurateur, cherchent les filières de circuit court qui vont pouvoir leur approvisionner en fonction de la recette qu'ils auront fait. Critères de gastronomie, bien sûr, des critères qualité-prix pour que aussi qu'on soit dans quelque chose qui reste raisonnable au niveau du coût. Enfin, sur l'impact environnemental du menu, du plat qui sera présenté.
Oui, parce que ce concours a donc une finalité environnementale.
Ah, tout à fait, c'est le but un petit peu, c'est de montrer qu'on peut faire de la cuisine de qualité, locale, bien sûr, donc avec des produits régionaux, mais qui soit effectivement sobre en énergie et bien sûr sobre en émissions de gaz à effet de serre. Effectivement, le critère bio, c'est un élément en plus qui sera, entre guillemets, bonificateur par rapport au jury, en fait. Parce qu'on aura un impact environnemental de manière générale, que ce soit sur la pollution des eaux, que ce soit sur, selon les cas, sur les émissions de gaz à effet de serre ou sur les consommations d'énergie, qui va être moindre que dans l'agriculture conventionnelle.
Voilà, donc une petite aussi activité. Là aussi, vous voyez, tout ceci en train de faire sens tranquillement. Donc, on a bien compris, ils ne vont pas se ravitailler à 80 km dans les supermarchés. Non, pas du tout. Bénédicte Magnier, on va s'intéresser maintenant aussi à l'énergie. Il y a un certain nombre d'exemples. On va partir d'abord au Népal. Pourquoi le Népal ? Parce que d'abord, c'est un pays extrêmement pauvre et 80% de la population n'a pas accès forcément à l'énergie. Et là aussi, il y a eu une chose qui est quand même que l'on a pu constater. D'un côté, absence d'énergie fiable et absence de collecte de déchets dans les villages. Alors, si on réunit les deux, les déchets vont donner du biogaz. Et c'est pour ça que le Népal est devenu un pays pionnier. Alors là aussi, à la fois, ça a été les habitants, c'était aussi un peu l'État, mais tout le monde s'est pris en main.
Oui, c'est un programme qui est d'une impulsion gouvernementale, mais qui est entièrement géré par les citoyens localement. Donc, les villages du Népal, qui est un pays montagneux, sont peu accessibles. L'idée, c'était de les rendre autonomes en énergie. Donc, on équipe massivement ces villages en éolien, en solaire, mais surtout en digesteurs de biogaz. Donc, il y a plus de 260 000 digesteurs de biogaz qui ont déjà été installés et c'est loin d'être fini. Mais ça a quand même permis maintenant à plusieurs centaines de milliers d'habitants d'être entièrement autonomes pour s'éclairer, pour se chauffer, pour cuisiner, pour travailler aussi, parce que l'artisanat dépend de cette source d'énergie. Accessoirement, ça a aussi créé près de 10 000 emplois, ce qui n'est pas négligeable. On se rend compte que grâce à ce biogaz, on ne coupe plus les arbres dans les forêts. Donc ça sauve 250 000 arbres chaque année. Et puis ça a réduit jusqu'alors les émissions de gaz à effet de serre de plus de 7 tonnes par famille et par an. Et en plus, le Népal a fait quelque chose qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'il a mis en place une coopération sud-sud. C'est-à-dire que comme ça marche à l'intérieur de ses frontières, il applique le programme ailleurs, en Afrique et dans d'autres pays d'Asie. Il aide d'autres pays à s'équiper de ces mêmes digesteurs de biogaz. Au Vietnam, par exemple, il y a plusieurs centaines de milliers, là aussi, de digesteurs qui ont été installé, il a rendu les villages autonomes et ça a créé quand même plus de 300 000 emplois. Donc on se rend compte que c'est une solution gagnant-gagnant. On gagne sur le plan des émissions de gaz à effet de serre, sur le plan des forêts, sur le plan de l'environnement et sur le plan social.
Alors Bénédicte Magnier, c'est vrai qu'on peut l'élargir, on va aller assez vite parce que là on est en fin d'émission, mais si on s'intéresse donc à la transition énergétique qui quand même est le nerf aussi de demain pour beaucoup de régions, en France, partout dans les régions. En Bretagne, l'association Éolienne en Pays de Vilaine, qui réunit des enseignants, des informaticiens, des agriculteurs, a surmonté des années de difficultés tout à fait administratives et financières. Ils ont implanté leur premier parc éolien citoyen. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ?
C'est-à-dire que c'est un projet entièrement conçu et coopératif, conçu par les citoyens, mis en œuvre par eux. Il y a 4 turbines éoliennes qui se sont mises en place, enfin qui sont en train de se mettre en place. Ça ne fait qu'arriver en France, parce que c'est quelque chose qui est déjà bien plus avancé en Europe du Nord. Quand on regarde le Danemark, quand on regarde la Belgique, quand on regarde l'Allemagne, ce sont les citoyens qui mettent en place le début d'autonomie énergétique du pays.
C'est-à-dire qu'au bout de chaque panneau solaire ou de chaque éolienne, et on a fait une émission sur, il n'y a pas longtemps, sur l'Allemagne et sa transition énergétique, il y a un citoyen qui est au bout.
Absolument. Au Danemark, par exemple, il y a 100 000 familles qui se sont organisées en coopérative et qui détiennent 86% des éoliennes du pays. Et il y a d'immenses parcs éoliens au large des îles du Danemark, ça, on le sait. En Allemagne, il y a déjà une cinquantaine de villages qui sont entièrement autonomes, avec une combinaison de plusieurs énergies, éolien, solaire, etc. C'est quand même ce qui a permis, ces milliers de petites autonomies de particuliers, c'est quand même ce qui a permis au pays de battre un record mondial de production d'énergie verte en mai dernier, avec 22 gigawatts heure, c'était quand même l'équivalent de 20 centrales nucléaires. Oui. Les petits ruisseaux font les grandes rivières.
Et puis les transitions énergétiques de proximité qui sont lancées ou gérées par la société civile sont aussi à la base peut-être d'un modèle aujourd'hui qui est mis en avant pour penser l'après-pétrole à une échelle qui est beaucoup, beaucoup plus large. Donc je peux vous renvoyer à tous ces exemples. Vous en avez aussi sur la santé, on n'a pas eu le temps d'en parler. Merci à vous Patrick Vivray. Peut-être une toute petite question, mais très rapide. Quand on peut dire qu'il y aura une masse critique qui pourra peser sur les choix politiques, Patrick Vivray ?
Mais il pèse déjà sur les choix politiques, parce que tout ce que raconte Bénédicte, c'est aussi, à travers la citoyenneté, une autre forme de politique. Mais c'est une politique qui est en train de mettre en œuvre un choc de solidarité alternatif au choc de compétitivité dont on nous parle ad nauseam.
Et merci beaucoup Patrick Vivray, merci à vous Bénédicte Magnier, à Michel Bézikian, Alice Christophe à la technique, à Stéphane Cobe, à Fabrice Lègle qui réalisait l'émission. Petit clin d'œil à André de Tornac dans le Gard qui doit m'écouter, qui m'a inspiré ce texte sur l'introduction sur la Suède. Jean-Baptiste Audibert a choisi les disques, Anne Gouzon nourrit les sites, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis, je vous retrouve dans quelques instants avec d'ailleurs Clara et les Chiclis, parce que Clara est déjà sur le salon du livre Radio France. Donc venez nous rejoindre. On y sera aussi avec les indispensables de l'Atulu, mon petit loup. Je vous souhaite un excellent week-end. Allez, petite pub.